pas faux, l'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le mardi 18 octobre 2022 et aujourd'hui nous partons dans l'espace avec l'une des très rares personnes ayant eu la chance d'y voyager pour de vrai.
Et oui, alors qu'elle allait donner une conférence au MOHO à Caen, jeudi dernier, la spationaute française et ancienne ministre Claudie Aigneret a gentiment accepté de s'arrêter à notre micro.
L'occasion de revenir sur sa carrière, ses voyages spatiaux, l'actu de l'astronomie, mais aussi de son rôle actuel au sein de l'Agence spatiale européenne.
Mais avant, c'est l'heure du flash avec les infos sciences de la semaine. Si je vous dis combien existe-t-il de groupes sanguins, vous allez sûrement me répondre 4, A, B, AB et O. En comptant les rhésus positifs ou négatifs, cela fait 8, mais au final, il en existe 44. Le dernier en date a été découvert la semaine dernière, malheureusement dans de tragiques circonstances. C'est lors d'un accouchement que la découverte a été faite. Une césarienne d'urgence a été effectuée lorsque le bébé à naître a présenté des signes de détresse. Le nouveau-né est décédé malgré les transfusions sanguines et les efforts de l'équipe médicale. Un échantillon du sang de la mère a été envoyé à des chercheurs spécialistes de Bristol et la découverte est particulière. Le groupe sanguin de cette femme est extrêmement rare et incompatible avec le bébé. Le système immunitaire a produit des anticorps contre le sang du nouveau-né, une hémolyse, ce qui a entraîné son décès. Le nom de ce nouveau système de groupe sanguin, R, cela fait déjà 40 ans que les chercheurs travaillent sur l'identification de ce groupe sanguin. Cela est dû à la présence d'une protéine nommée piezo 1, située à la surface des globules rouges. Le gène qui code pour cette protéine peut varier en fonction des groupes sanguins, d'où la découverte de plusieurs systèmes de groupes ERA, RB, RC, R4 ou encore R5. La découverte de l'origine de ce nouveau groupe sanguin pourrait permettre de trouver d'autres variations et surtout d'adapter les traitements à ce sang particulièrement rare.
Santé maintenant, avec ce constat dressé par des chercheurs, la pollution de l'air favoriserait la mortalité liée au Covid-19. Une conclusion observée suite à la comparaison entre la teneur de particules fines dans l'air ambiant et le taux de mortalité lié au Covid-19 testé dans 32 villes européennes. Un constat alarmant qui tombait pile au moment de la journée nationale de la qualité de l'air, le vendredi 14 octobre. Pour Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au sein du laboratoire de physique et de chimie au CNRS d'Orléans et co-auteur de l'étude, le constat est sans appel. Dans les villes les plus polluées, on constate une augmentation par 5 de la mortalité lorsque les concentrations en PM2,5 atteignent les 45 microgrammes par mètre cube, soit une augmentation d'environ 10% de la mortalité par microgramme de particules fines supplémentaires. Si l'on sait depuis des décennies que les particules fines pénètrent très profondément dans les tissus pulmonaires, provoquant ainsi des lésions, des bronches, qui favorisent l'apparition des maladies respiratoires et cardiovasculaires, on sait maintenant qu'elle pourrait aussi préparer le terrain et favoriser la diffusion du virus au sein de l'organisme. L'évidence, c'est que pour réduire le risque, il faut diminuer la pollution, c'est ce qui est entrepris avec des politiques de long terme. En attendant, il faut dès à présent diffuser à chaque pic de pollution des messages sanitaires plus pressants pour inciter les gens à rester chez eux, à diminuer leur activité physique et à s'interdire toute pratique sportive, prévient Jean-Baptiste Renard.
La colère gronde parmi les jeunes en études de santé. On en a parlé la semaine dernière dans Fact News, l'instauration d'une quatrième année de formation dans les déserts médicaux ne passe pas. Partout en France, les futurs médecins se sont rassemblés pour manifester et pointer du doigt une réforme sans concertation et qui vise, selon eux, à combler les manquements du gouvernement dans ces zones sous-denses sans médecins. Plusieurs centaines d'internes en médecine ont manifesté devant le ministère de la Santé le 14 octobre à Paris, 2000 personnes à Lyon et près de 400 à Strasbourg, des manifestations soutenues par le corps médical et les syndicats, la CGT, la CFE-CGC, composée de cadres, les praticiens d'APH, les urgentistes de la MUF et les anesthésistes du CNFAR ont apporté leur soutien. Du côté du gouvernement, on promet une année d'études en zone sous-dense sur la base du volontariat pour mieux préparer les médecins dans les cabinets médicaux. Affaire à suivre.
Si vous êtes du genre à tout remettre au lendemain, on sait désormais sur qui jeter la faute. En effet, le coupable de la procrastination s'appelle le cortex singulaire antérieur. C'est ce qu'ont découvert des chercheurs de l'INSERM et de l'Institut du cerveau. Ces derniers ont fait passer des tests à 51 patients, leur demandant de faire des tâches fastidieuses comme remplir des formulaires administratifs puis les envoyer sous un délai d'un mois. Résultat, certains ont dépassé le délai. Or, les chercheurs avaient en quelque sorte pu identifier qui seraient les procrastinateurs, car avant de remplir ces tâches administratives, les patients avaient dû répondre à une série de mises en situation, par exemple de savoir s'ils préféraient faire la vaisselle le soir ou même le lendemain matin. Cet arbitrage a permis de voir par IRM qu'il se passait quelque chose au niveau de ce fameux cortex singulaire antérieur pour les patients préférant attendre le lendemain. Et c'est d'ailleurs ces mêmes patients qui avaient pour la plupart rendu leur formulaire administratif en retard. Si cette découverte permet de mieux comprendre le fonctionnement et les causes de la procrastination, elle ne permet pas pour le moment aux scientifiques de mettre en place un traitement.
Une aventure humaine pour convaincre de l'enjeu de protéger la planète. Ce sont les mots de Romain Troublé, directeur général de la fondation Tara Océan. Lui et son équipe de scientifiques ont parcouru 70 000 km pendant 2 ans en Atlantique Sud, dans le Pacifique et en Antarctique. Ils ont récolté plus de 25 000 échantillons durant leur voyage pour comprendre et mieux appréhender les enjeux du réchauffement climatique. Le but est de mieux protéger le microbiome, une partie invisible à l'œil nu de l'océan, composée de microbes, de micro-algues, indispensables pour la vie dans les océans. Chaîne alimentaire, production d'oxygène et stockage de carbone, tous ces services sont dispensés par ce monde microscopique, d'où la nécessité de mieux les protéger. La récolte de ces échantillons a duré 2 ans, cela prendra autant de temps pour les analyser et trouver des solutions adaptées pour mieux protéger le monde marin. L'augmentation de la température des océans, le plastique et les produits chimiques sont les principales raisons du dérèglement climatique et des écosystèmes marins. Et cette expédition a pour but de montrer les conséquences de nos modes de vie et de convaincre la population de protéger la planète bleue.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Le jeudi 13 octobre, jour où nous enregistrons cette interview, la spationaute Claudie Aigneret, docteur en neurosciences, ancienne ministre, première femme européenne à être allée dans l'espace donner une conférence au MOO à Caen.
Mais avant, elle a eu la gentillesse de s'arrêter à notre micro pour répondre à nos questions. Bonjour Claudie Aigneret.
Bonjour.
Comme on l'a dit, vous êtes l'une des grandes figures spatiales en Europe. Vous avez effectué 2 vols dans l'espace en 1996 et en 2001. Et encore aujourd'hui, vous jouez un rôle dans ce domaine puisque vous êtes conseillère auprès du directeur général de l'Agence spatiale européenne. Quel est votre rôle concrètement dans cette institution ?
Alors, je suis une astronaute qui a été sélectionnée par l'Agence française en 1985 pour faire des missions spatiales. Et puis, à un moment donné, en 1999, l'ensemble des groupes d'astronautes allemands, italiens, français ont été regroupés au sein de l'Agence spatiale européenne, qui regroupe 22 États membres de l'Union européenne et au-delà, pour faire partie du corps des astronautes européens. Donc voilà, je suis depuis de nombreuses années maintenant un membre de l'Agence spatiale européenne. Et cette agence travaille sur tous les domaines du spatial, que ce soit la technologie de base pour faire en sorte d'avoir des bons lanceurs, de pouvoir accompagner le développement de satellites qu'on met en orbite basse pour l'observation de la Terre, les télécommunications ou la navigation. Et puis, bien évidemment, la partie exploration. Exploration habitée, exploration robotique, et puis exploration de l'espace lointain avec les sciences spatiales. Et moi, j'ai été beaucoup impliquée sur ce qu'on appelle le vol habité en orbite basse, puisque les stations spatiales dans lesquelles j'ai volé, c'est à 400 km en orbite autour de la Terre. Et aujourd'hui, vous en avez tous entendu parler, l'objectif qui va arriver très prochainement, c'est le retour sur la Lune. Et donc, mes dernières années de travail au contact de l'Agence spatiale européenne étaient pour voir comment on pouvait développer des infrastructures permanentes sur la surface de la Lune, de façon à ce que des équipages puissent y vivre, y travailler, apprendre à utiliser ces infrastructures pour, bien évidemment, faire de la recherche sur la Lune, mais aussi commencer à préparer l'exploration plus lointaine, en particulier vers Mars.
Alors, quelle place aujourd'hui l'Agence spatiale européenne elle occupe face, je pense notamment, aux agences américaines et chinoises ?
Alors, vous avez raison, il y a 2 grandes agences, enfin une que tout le monde connaît, qui est la NASA. L'agence américaine, qui s'occupe essentiellement de la partie exploration robotique et avec des équipages. NASA ne va pas s'occuper du développement des satellites d'observation de la Terre, enfin tout ce que j'ai cité comme enjeu que l'Agence spatiale européenne aborde. Et puis effectivement, depuis quelques années aujourd'hui, la Chine, très très présente dans tous les domaines du spatial là aussi. Il ne faut pas oublier bien évidemment l'agence russe, qui, même si aujourd'hui la situation est compliquée, et plutôt sur des enjeux de défense d'ailleurs, est quand même celle qui nous a beaucoup appris dans l'exploration de l'espace. Hein. Il faut se souvenir de 1961 et du vol de Gagarine, et puis de tout ce qui a suivi du côté russe. Alors, la couverture, le champ d'activité de l'Agence spatiale européenne est donc très très large hein, sur l'ensemble des secteurs du spatial, ce qui n'est pas le cas des autres agences. Et en ce qui concerne l'exploration, peut-être une remarque préliminaire, l'Europe n'a pas fait le choix pour l'instant, mais ça peut bouger, d'avoir un accès autonome pour des équipages à l'espace. Aujourd'hui, seules ces trois puissances que j'ai citées, la Chine, les États-Unis et la Russie, sont en capacité de transporter des équipages, soit vers l'orbite basse, soit au-delà. L'Agence spatiale européenne, pour l'instant, a des superbes lanceurs, Ariane, Ariane 5, et on attend Ariane 6 très, très bientôt, et puis aussi un plus petit lanceur qui s'appelle Vega. Mais ces lanceurs sont des lanceurs pour des charges utiles automatiques, pour des satellites ou des sondes automatiques. Donc, ce choix est un choix important pour se dire est-ce que l'Europe, à un moment donné, va porter une ambition d'avoir la capacité complètement autonome d'accéder avec des équipages à l'espace. Mais ce choix n'est pas encore fait, il est en réflexion. Et donc, aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne travaille en partenariat avec ses partenaires. Et moi, j'ai vécu cette construction de la Station spatiale internationale avec 5 grands partenaires, les États-Unis, la Chine, l'Agence spatiale européenne, le Japon et le Canada. C'est 5 grands partenaires. Et donc, effectivement, c'est tout de même un programme piloté par les États-Unis, comme le programme lunaire qui est en cours de préparation, mais sur lequel la contribution européenne est indispensable et importante, avec des laboratoires scientifiques, des éléments de contrôle du fonctionnement de la station. Et en échange de ces apports technologiques, nous recevons la possibilité d'avoir du temps d'équipage et donc des équipages à bord. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas avec un échange de fonds, mais c'est parce qu'on apporte une contribution technologique de haut niveau qu'on peut avoir accès justement à l'utilisation de cette infrastructure en orbite. C'est ce qu'on veut développer aussi pour cette étape lunaire, avec une agence qui se mobilise beaucoup pour ne pas être qu'un junior partner, si on peut l'exprimer comme ça, mais d'avoir vraiment une contribution essentielle à la construction de cette exploration du futur. Donc c'est comme ça que fonctionne l'Agence spatiale européenne, avec des programmes sur lesquels ces 22 États membres contribuent financièrement à hauteur de leur expertise, de leur industrie. Et bien évidemment, la France est un des contributeurs les plus importants de l'Agence spatiale européenne, avec l'Allemagne qui est aussi un contributeur majeur dans ces domaines.
Donc, comme nous l'évoquions en introduction, vous êtes surtout connu pour avoir été spationaute. Comment est-ce qu'on passe de docteur en neurosciences, que vous étiez aussi, à spationaute? Comment tout ce chemin s'est fait?
Alors, je vais partir de l'enfance, peut-être. Voilà, vous raconter un petit peu que j'avais 12 ans en 1969, en juillet 69, et que j'ai donc été fascinée comme des milliers d'êtres humains, des millions d'êtres humains, ce jour-là, à voir le premier pas de l'homme sur la Lune. Donc voilà, quelque chose qui ouvrait la porte du rêve en fait, quelque chose qui semblait inaccessible ce jour-là. Ben voilà, l'homme se posait sur la Lune et descendait et marchait sur la Lune. Donc ça m'a beaucoup inspirée, nourrie, j'ai beaucoup lu, regardé sur ce sujet et c'était très présent dans mon cerveau d'enfant, mon cerveau d'adolescent, mon cerveau de jeune adulte. Mais je suis devenue médecin, en fait je suis médecin rhumatologue. Et j'ai ensuite fait une formation, un doctorat en neurosciences. Et c'est à l'hôpital où je travaillais, à Paris, comme rhumato, que je suis tombée sur cet appel à candidature de l'Agence française de l'espace, qui cherchait des astronautes avec un profil plus large que les profils du début de la conquête spatiale, qui étaient plutôt des profils militaires, des profils de pilotes. Là, l'idée était vraiment de mener des recherches à bord des stations spatiales, donc des candidatures qui étaient ouvertes à des profils d'ingénieurs de tous les domaines, de chercheurs de tous les domaines, et bien évidemment, médecins, docteurs, c'était des choses intéressantes. Et là, c'était la rencontre de ce rêve d'enfant, de ce désir mûri, puis de l'opportunité de pousser la porte. Et pour moi, c'était une évidence. Il fallait que je pousse la porte. Je l'ai poussée, ça a marché. Et je suis devenue une candidate astronaute, puis une astronaute, et j'ai eu la chance de faire deux missions.
À ce propos, comment se déroule le recrutement? Quels sont les tests, les épreuves? Qu'est-ce que vous avez fait pour passer, pour devenir astronaute?
Alors, à l'époque, en 1985, nous étions 1000 candidats en France, et il y a eu 7 heureux candidats sélectionnés. Et sur 1000 candidats, en fait, la première étape, après l'examen des dossiers, motivation, le pourquoi, bien évidemment, c'était des tests médicaux. médicaux, parce que vous entrez dans une carrière d'astronaute qui va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans de votre vie, et il faut que vous soyez en bonne forme physique. Donc zéro défaut, et zéro défaut encore 15 ans après, quand vous aurez poursuivi votre carrière. Donc un crible médical très important, aussi sur des éléments physiologiques un petit peu moins ordinaires, comment vous tolérez les facteurs de charge en centrifugeuse, qu'est-ce que la dépression, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme conditions un petit peu hostiles du vol spatial. Des tests psychologiques, bien évidemment, psychologiques individuels et psychologiques de groupe, pour savoir comment vous allez vous comporter dans un équipage, en expatriation. Moi, j'ai passé 10 années de ma vie en Russie pour m'entraîner. Et puis ensuite, votre capacité à mener des recherches, à communiquer, transmettre et vous comporter, voilà, en tant que représentant français et représentant européen aussi, c'est important. Donc tous ces éléments-là étaient, sur une période de 6 mois, les éléments qui ont permis d'arriver à ces 7 astronautes. Et puis ensuite, quand vous êtes assigné à une mission, vous allez partir réellement à l'entraînement. Et moi, je suis partie à l'entraînement à la Cité des Étoiles, près de Moscou, en 1992. Et là, au-delà de votre métier de base, ben, vous apprenez toutes les autres compétences qui vont vous être nécessaires pour réaliser la mission spatiale. C'est-à-dire que moi, je suis devenue un petit peu ingénieure, j'ai appris à gérer des systèmes complexes, des plateformes gyrostabilisées, enfin des choses que je n'avais pas appris en médecine, ni dans mon doctorat de neurosciences. Donc, apprendre très largement de multiples nouvelles connaissances, acquérir des compétences, travailler en équipage dans des simulateurs pour répéter ces phases de la mission, ces moments de complexité, apprendre à travailler aussi avec les centres de contrôle de la mission qui sont au sol, en support, hein, parce qu'en orbite basse, on a cette capacité à communiquer pendant la mission. Donc en fait, on se connaît bien dans l'équipage. Et moi, j'avais un équipage de 3 personnes dans une capsule Soyouz sur la fusée Soyouz, côté russe. On est un équipage de 3. Et voilà, on se connaissait bien. On avait des profils très différents. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié la diversité de genre, bien évidemment. Mais il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'entraînement, comme vous pouvez vous imaginer. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus. Mais des gens qui étaient des militaires, des civils, des pilotes, des ingénieurs. Donc voilà, apprendre à être plus en capacité, tous ensemble, de réussir la mission, parce qu'on va s'enrichir avec nos diversités et nos compétences différentes. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que l'entraînement est long pour se sentir en confiance soi-même avec ce qu'on va avoir à faire. Confiance avec la technique, bien évidemment. Il faut être en confiance avec le lanceur, la capsule et les systèmes que vous aurez à gérer. Et puis, cette confiance mutuelle de l'équipage qui sait que, voilà, on est tous embarqués pour une mission difficile, mais où l'objectif, c'est le succès. Donc, ça nous structure quand même beaucoup, et on est, jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes dans les équipages. C'est quand même des entraînements longs. On est même amené à vivre des situations de survie en cas de situation non nominale, comme on les appelle dans notre jargon, c'est-à-dire si ça ne se passe pas tout à fait comme c'était prévu. On arrive à maîtriser l'environnement complexe, style le confinement, l'isolement et tout ce que représente une mission spatiale pour pouvoir profiter au maximum de cette situation de microgravité où on flotte dans les 3 dimensions et ce regard absolument magnifique par le hublot quand on tourne autour de la Terre en 90 minutes à 28 000 km/h.
Et justement, qu'est-ce qu'on ressent une fois que ça y est, on y est dans l'espace, on a attendu plusieurs jours, j'imagine beaucoup de pression sur les jours qui précédaient. Une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on ressent ?
Le premier vol, c'est vous en avez rêvé, vous en avez parlé, partagé avec vos collègues qui ont déjà volé. Je disais toujours, la réalité a été encore plus belle que le rêve que j'avais imaginé. Et c'est vrai que cette première sensation de liberté de son corps, de cette légèreté, de se plonger dans cet environnement de microgravité, d'utiliser les 3 dimensions de l'espace, hein. Bon, c'est quelque chose qui est assez plaisant. Il y a un plaisir physique à se sentir dans cette condition. Après, il faut la maîtriser, hein, parce qu'il faut contrôler ses mouvements, il faut fixer ses pieds pour travailler sur un rack d'expérience. Il y a une façon d'organiser son travail qui est un peu particulière. Il faut aussi recaler un petit peu nos références de terrien à des références en 3 dimensions. Donc, sur le plan cognitif, sur le plan physiologique, il y a des adaptations assez rapides, en fait, je trouve qu'on s'adapte assez rapidement. Donc, c'est à la fois beaucoup de plaisir de découvrir cet environnement et puis l'émerveillement, la fascination d'être ces moins de 600, on est 590 privilégiés à avoir eu la chance de voir la Terre par le hublot des stations dans lesquelles on a travaillé.
Peut-être que vous avez eu des craintes, il y a certaines personnes qui parlent de l'overview effect, l'effet de surplomb. Est-ce que vous avez eu des craintes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché?
Alors l'overview effect, effectivement, c'est un petit peu le concept de ce regard particulier par le hublot, avec déjà un champ de vision énorme. Vous voyez 2500 km de champ de vision quand vous regardez et vous défilez en 90 minutes autour de la Terre. Vous voyez cette Terre complètement isolée dans le cosmos noir par ailleurs. Vous voyez bien évidemment sa rotondité, je le dis toujours, la Terre est ronde. Vous voyez cette pellicule d'atmosphère qui fait que c'est le seul endroit où il y a de la vie. Et la vie, on la voit par les lumières des villes pendant la nuit. Vous voyez ces déserts, ces montagnes, ces plaines, ces océans. C'est vraiment très beau, donc plein d'émotions. En dehors du fait du sensoriel, vous voyez des choses avec une dimension que vous n'aviez jamais vue, parce que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus rapide aussi, que vous le voyez avec un corps léger. À la limite, vous oubliez votre corps, vous n'êtes qu'un regard qui se jette par le hublot. Donc il y a cette partie très sensorielle, cette partie d'émotion, être émerveillé, fasciné par la beauté. Et après, c'est vrai que ça vous amène intellectuellement à vous dire: cette Terre, c'est notre vaisseau spatial de l'humanité qui transporte l'humanité dans le système solaire. Et tout autour, c'est un cosmos très mystérieux et plutôt hostile. Et donc, ça nous plonge dans cette distance et cette responsabilité qu'on ressent, comme quand on est un membre d'équipage dans la station et qu'on se dit c'est de notre responsabilité de faire en sorte que la station se porte bien, qu'elle fonctionne bien. Bien voilà, on a cette distance et effectivement intellectuelle où la plupart d'entre nous, quand on revient, on est des ambassadeurs de la planète et de sa préservation, de son atmosphère. On est des ambassadeurs de la responsabilisation de chacun. Et on a tous beaucoup envie de transmettre, de partager. Et ça fait partie de notre mission, mais de notre plaisir aussi. Donc c'est vrai que ça nous transforme. C'est une expérience transformante. Je dirais pas qu'il y avait de la peur. Pour moi, j'ai toujours vécu avec de l'émerveillement, de la fascination, l'appétit de tout ressentir, de tout enregistrer. Pas beaucoup de temps pour prendre des photos, mais de l'enregistrer au moins dans mon cerveau pour le raconter au retour. Après, on est très bien préparé. Moi, j'avais bien confiance dans le système. On a une interaction avec le sol, un équipage qui fonctionne bien. Et j'ai eu une mission où il n'y a pas eu de pépins, il n'y a pas eu de dépressurisation par collision, il n'y a pas eu de feu à bord. Donc ces situations-là, si je les avais rencontrées, peut-être j'aurais éprouvé une forme de peur, probablement, même si on est entraîné au sol d'ailleurs à gérer ces situations. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des missions sans problème, donc j'ai vécu que le bon côté de la situation.
On va faire une petite pause musicale et écouter Sylvie et le titre Further Down the Road. À tout de suite sur Radio Phoenix.
Time.
C'était Further Down the Road de Sylvie. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix, à l'écoute de C'est pas faux. Et nous sommes avec la spationaute Claudie Anuret.
Donc, comme nous l'évoquions, vous êtes la première femme européenne à avoir été dans l'espace. Est-ce qu'au fond, vous vous considérez comme une pionnière ou vous vous dites que ça n'a pas tant d'importance ?
On pose souvent cette question parce qu'on n'est pas beaucoup de femmes. Hein. On est, je crois, même pas 70 femmes sur les 600 astronautes dont j'ai parlé précédemment. Si pionnière, ça veut dire avoir été la première à le faire, ben je suis la première française à être allée dans l'espace. Et aujourd'hui, je suis encore la seule française. Après, pionnier, c'est vraiment faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant. Donc moi, Gagarine est un pionnier. Armstrong ou Buzz Aldrin qui sont allés sur la Lune sont des pionniers. Voilà, j'ai un respect et une admiration complète pour ces vrais pionniers. Moi, je me considère comme une astronaute professionnelle. J'ai été formée, j'ai été entraînée longuement. Donc, je ne me considère pas dans la catégorie des pionniers, mais je suis tout à fait consciente que le fait de pouvoir en parler, faire des conférences aux étudiants, faire des conférences dans les écoles, ça a quelque chose qui est, inspirant, motivant, ça ouvre des possibles. Et pour certains, le monde des astronautes et de l'exploration habitée, c'est quand même encore quelque chose qui est du domaine du pionnier. Même si on est maintenant très très professionnel.
Depuis 2001, il y a eu très peu de spationautes français. Le plus récent, on le connaît tous, c'est Thomas Pesquet. Pourquoi est-ce que finalement, il y a aussi peu de Français qui vont dans l'espace ?
Alors, il y a quand même eu 10 Français qui sont allés dans l'espace, c'est pas peu. Et on célèbre en ce moment le 40e anniversaire du premier vol en 1982 de Jean-Loup Chrétien. Donc 40 ans, la France est très présente. L'Agence spatiale européenne, aujourd'hui très, très présente. On avait à bord encore tout récemment une astronaute européenne de nationalité italienne, Samantha Cristoforetti, qui, quand vous passerez l'émission, aura améri. Aujourd'hui, elle n'a pas encore améri.
On en parlera.
On en parlera. C'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. L'Europe ne peut pas décider, elle toute seule, d'envoyer des Italiens, des Allemands, des Français, puisque le corps d'astronautes est européen. Et donc, elle est en coopération avec les partenaires qui disposent d'infrastructures. Alors, il y a une infrastructure chinoise, vous avez évoqué la Chine tout à l'heure, il y a une station spatiale chinoise pour lesquelles il y a un tout début de coopération scientifique, mais vous imaginez que dans le contexte géopolitique, c'est pas complètement facile d'être dans une coopération aussi ouverte que celle qu'on a avec NASA. C'est en fonction de la contribution de l'Agence spatiale européenne aux programmes internationaux que nous recevons un temps d'astronautes et un temps consacré aux recherches scientifiques, puisque le propos, c'est de faire des recherches dans un environnement, dans des laboratoires uniques où l'effet de la gravité ne s'exerce pas sur une structure vivante, qu'elle soit être humain, animal, cellulaire, végétal, ou que ce soit un fluide, un alliage, un plasma. Donc voilà, on peut tester des hypothèses en 0G, ce qui est impossible à faire au laboratoire au sol. Donc un environnement tout à fait unique et extraordinaire pour la recherche.
On connaît les agences spatiales nationales et continentales, on en a cité tout à l'heure, la NASA, l'Agence spatiale européenne, mais le secteur privé est aussi en train de conquérir l'espace, on pense naturellement à SpaceX ou à Blue Origin. De quel œil les voyez-vous et est-ce qu'ils sont des partenaires ou plutôt des concurrents ?
Vous avez tout à fait raison, le paysage s'est beaucoup transformé depuis les 10-15 dernières années. On a même évoquer le mot de New Space par rapport à l'espace traditionnel qui était celui des agences institutionnelles. Et vous avez raison aujourd'hui, il y a des entreprises privées qui travaillent au service des agences institutionnelles. NASA passe des contrats à Elon Musk pour développer des lanceurs, pour développer même des atterrisseurs sur la Lune. Donc, ça fonctionne dans une bonne coopération, mais une délégation de responsabilité qui est celle d'aujourd'hui, qui n'était pas du tout ce qu'on connaissait auparavant, mais qui est intéressante parce que à la fois, ça peut apporter des méthodes de travail, une agilité, une façon de prendre des risques différents, de tester avant de... qui sont différents de notre industrie traditionnelle. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde que d'avoir des méthodologies, des process et des gens qui pensent différemment. Et des gens souvent plus jeunes d'ailleurs, mais qui accueillent des ingénieurs de NASA ou des ingénieurs de l'ESA sont présents dans ces structures. Donc je le vois comme quelque chose qui est de la bonne coopération, utile et intéressante. Après, ces entreprises privées, bien évidemment, elles ont aussi des business models en tête, hein, d'utilisation avec les méga constellations, par exemple, de Starlink, de SpaceX, ce que vous avez évoqué. Il y a un modèle économique derrière de collecter des données, de donner de l'accès à Internet. Donc, voilà, ça, ce sont des objectifs d'entreprises privées. Nous, dans le domaine des agences institutionnelles, les données collectées sont des données qui sont ouvertes à la communauté. Par exemple, on a un Science Climate Observatory, toutes ces données d'observation de la Terre pour comprendre le changement climatique, elles sont bien évidemment ouvertes à tous les organismes de recherche ou les universités pour y travailler, et même pour des entreprises privées, et peut-être dans vos écoles, vous le faites aussi, sur leur data analysis pour utiliser ces données pour les politiques publiques ou pour des politiques de toute nature. Donc, il y a à la fois un monde économique, et puis un monde de coopération avec une agilité et des visions un petit peu disruptives parfois qui ont été apportées par ces entreprises privées. Après, il y a des visions qui emmènent peut-être un petit peu loin, que parfois je considère comme des dérives, et tout particulièrement le fait d'avoir un voyage sans retour sur Mars, et avec une colonisation de Mars, ça ne fait pas partie éthiquement des missions et des objectifs, ni des agences, ni de moi-même au service des agences.
Pour terminer cet entretien très intéressant, vous allez faire une conférence dans quelques instants. Elle s'inscrit, cette conférence, également dans le contexte de la fête de la science. Est-ce que pour l'ancienne ministre de la Recherche, la scientifique que vous êtes, ce genre d'événements et les témoignages comme le vôtre sont importants pour éduquer les personnes à la science et au monde scientifique ?
Je pense que c'est important d'attirer, d'ouvrir les yeux, de faire en sorte qu'on se questionne, qu'on soit, pourquoi pas inspiré, étonné. Enfin, le questionnement et la curiosité, c'est la base de la démarche scientifique. Et après, d'entrer dans une conversation, la rencontre avec tous les publics pour entrer en conversation. Et puis, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément de réponse ? Donc, à partir de là, je pense qu'on rentre dans un bon processus pour que science et technologie, ça fasse partie de notre culture. Voilà, on se l'approprie. Et après, la matière spatiale, elle est formidable parce que c'est à la fois des sciences, les sciences de l'univers, les missions vers le Soleil, vers Mercure en ce moment, ou les planètes extrasolaires. Donc c'est quelque chose qui est quand même du domaine du merveilleux et de la fascination, et pour lequel on a besoin d'esprit scientifique et d'ingénierie de haut niveau. C'est bien sûr l'exploration habitée qui fait rêver, le nombre de jeunes qui ont suivi, et de moins jeunes, le vol de Thomas Pesquet tout récemment. Et puis c'est aussi s'ouvrir sur de l'ingénierie de très haut niveau. Vous imaginez les lanceurs, les satellites, les sondes qui vont vers Mars, le petit hélicoptère qui est en train de faire des vols dans la faible atmosphère de Mars, ou ces télescopes comme le James Webb télescope. Vous avez tous rêvé en voyant les images qu'il nous envoie. Donc voilà, on est une matière en or pour parler de science, d'ingénierie, de géopolitique. Vous m'avez tout de suite démarré l'entretien avec ces aspects géopolitiques et des différentes puissances. On peut parler de droit, le droit spatial. Comment on régule cet accès à l'espace ? Comment on régule l'appropriation de ressources sur des corps célestes ? On va avoir besoin d'architectes pour bâtir ces structures de l'avenir. On va avoir besoin de logisticiens. Enfin, il y a plein de métiers qui sont concernés. Et donc, voilà, quand on a une belle matière comme ça, ça fait partie de notre mission, et je dirais du devoir des scientifiques, d'aller vers les publics pour justement partager notre enthousiasme, notre passion. On va pas, tout le monde ne va pas devenir chercheur et ingénieur. Mais si on peut mettre une petite graine de questionnement et d'esprit critique, quelle que soit la matière, je pense que c'est essentiel, et c'est aussi un des objectifs de la fête de la science. Et faire la fête, ça veut dire qu'on s'émerveille et qu'on a du plaisir. Et le spatial, ça donne du plaisir.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Claudie Nuret, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes spationaute, première femme européenne à être allée dans l'espace. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Agenda de la semaine. Avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine, pardon.
On commence cet agenda avec un événement consacré aux phoques organisé par le Dôme et sobrement intitulé « What the Phoque ». Marie Francou, chargée de mission mammifères marins au sein du groupe mammologique normand, sera présente pour parler des actions mises en place pour protéger les phoques, présents en Normandie mais menacés par la chasse pour leur fourrure. What the Phoque, c'est demain, de 14h à 16h au Dôme. On reste au Dôme avec un autre événement qui aura lieu demain aussi, mais cette fois à 18h30 à 20h30. C'est une rencontre intitulée « Sobriété, faut-il débrancher ?», un événement organisé en partenariat avec l'Institut ITZ et qui est le premier rendez-vous d'une démarche participative visant à analyser en situation les stratégies d'adaptation des acteurs à la crise énergétique à venir et sa gestion. N'hésitez pas à réserver vos places sur le site internet du Dôme.
Comme chaque semaine, une recommandation reportage, on vous propose aujourd'hui « Des vaccins et des hommes », un documentaire qui traite des bénéfices et des risques de la vaccination, des avancées scientifiques et des questionnements sur l'immunité. On remonte le temps à l'époque de Louis Pasteur et sa découverte des microbes pour interroger le succès fulgurant de la vaccination. On s'écarte des affrontements pro ou anti-vaccins pour comprendre la complexité du débat et des enjeux de la vaccination. « Des vaccins et des hommes », réalisé par Anne Georgé, c'est ce soir sur Arte à 21h et disponible en replay sur le site Arte.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Victor qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Chloé pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.